comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, 29 juin. C'est aujourd'hui qu'est datée ma dernière lettre, et le comte a dû veiller à ce qu'il ne puisse exister aucun doute au sujet de la date. Car une fois encore, je l'ai vu quitter le château en sortant par la même fenêtre et portant mes vêtements. Tandis qu'il descendait le mur à la manière d'un lézard, je n'avais qu'un désir, saisir un fusil ou toute autre arme meurtrière afin de le tuer. Encore que je me demande si une arme, que seule une main humaine aurait fabriquée, aurait eu sur lui le moindre effet. Je n'ai pas osé guetter son retour, car je craignais de voir encore les trois parcs. Je revins dans la bibliothèque, pris un livre, et bientôt je tombai endormi. Je fus réveillé par le comte qui me dit, menaçant : « Demain, mon ami, nous ferons nos adieux. Vous repartirez pour votre belle Angleterre, et moi vers une occupation dont l'issue peut être telle que nous ne nous verrons plus jamais. Votre lettre ou vôtre a été mise à la poste. Je ne serai pas ici demain, mais tout sera prêt pour votre départ. » Les Tziganes arriveront le matin, car ils ont un travail à poursuivre, de même que les Slovaques. Quand ils s'en seront allés, ma voiture viendra vous chercher et elle vous conduira au col de Borgo, où vous prendrez la diligence pour Bistritz. Mais malgré tout, j'espère que j'aurai encore le plaisir de vous recevoir au château de Dracula. Je résolus d'éprouver sa sincérité. Sa sincérité. On a l'impression de profaner ce mot quand on l'applique à un tel monstre. Je lui demandai donc de but en blanc: « Pourquoi ne puis-je pas partir ce soir ?»« Parce que, cher monsieur, mon cocher et mes chevaux sont en course. Mais je marcherai volontiers. À vrai dire, je voudrais partir tout de suite. » Il sourit, d'un sourire si doux, si diabolique en même temps, que je devinais sans difficulté que cette douceur cachait quelque sinistre projet. « Et vos bagages ? » fit-il. « Peu importe, répliquai-je, je les ferai prendre plus tard. » Il se leva et reprit en s'inclinant si poliment que je fus sur le point de me frotter les yeux, tant ici il avait l'air sincère. « Vous, les Anglais, vous avez un dicton que j'aime beaucoup, car il exprime fort bien ce qui règle notre conduite à nous, boyards. Bienvenue à l'autre qui arrive, bon voyage à l'autre qui part. Venez avec moi, mon cher jeune ami. Vous ne resterez pas une heure de plus chez moi contre votre volonté, quoique je sois navré de votre départ. » Et d'apprendre que vous veuillez le précipiter ainsi. Venez !» Il prit la lampe, et avec une gravité majestueuse, il me précéda pour descendre l'escalier et se dirigea ensuite vers la porte d'entrée. Mais dans le corridor, brusquement, il s'arrêta. « Écoutez !» fit-il. Des loups hurlaient non loin du château. Il leva la main, et on eût dit que les hurlements s'élevaient à ce geste, comme la musique d'un grand orchestre obéit à la baguette du chef. Après un moment, il reprit son chemin, toujours majestueux, et, parvenu à la porte, il tira le gros verrou, enleva les lourdes chaînes, puis ouvrit lentement le battant. Je m'étonnais. La porte, donc, n'était pas fermée à clé. Soupçonneux, je regardais autour de moi, mais je ne vis la clé nulle part. Au fur et à mesure que le battant s'ouvrait, les cris des loups au dehors devenaient de plus en plus furieux. Et les bêtes, la gueule ouverte, laissant voir leurs gencives rouges et leurs dents grinçantes, apparurent dans l'embrasure de la porte. Je compris alors qu'il était vain de vouloir m'opposer à la volonté du comte. Qu'aurais-je pu contre lui, fort de tels alliés ? Cependant, la porte continuait à s'ouvrir lentement, et le comte, seul, se tenait sur le seuil. Comme un éclair, une idée me traversa l'esprit. L'heure fatale avait peut-être sonné pour moi. J'allais être donné en pâture au loup, et parce que je l'avais voulu. C'était là un de ces tours infernaux qui devait plaire au comte. Finalement, décidé à tenter une dernière fois ma chance, je m'écriai « Fermez la porte, j'attendrai, je partirai demain matin. » Puis, des mains, je me couvris le visage afin de cacher et mes larmes et mon amer désappointement. D'un seul geste de son bras puissant, le comte referma le battant, puis le verrou, et ses claquements consécutifs résonnèrent dans tout le haut corridor. Sans dire un mot, ni l'un ni l'autre, nous retournâmes dans la bibliothèque, d'où, presque aussitôt, je regagnai ma chambre. Pour la dernière fois, je vis le comte Dracula m'envoyant un baiser de sa main. Ses yeux brillaient de triomphe, et ses traits rayonnaient d'un sourire dont Judas eût pu être fier. J'allais me mettre au lit lorsqu'il me sembla entendre que l'on chuchotait derrière ma porte. Je m'en approchai sur la pointe des pieds et j'écoutais. Je crus reconnaître la voix du comte. « Non, non, disait la voix, retournez d'où vous venez. Pour vous, ce n'est pas encore le moment. Attendez, un peu de patience, cette nuit m'appartient. La prochaine sera à vous. » Des rires moqueurs et étouffés lui répondirent. Fou de rage, j'ouvris brusquement la porte et je vis les trois femmes qui se pourléchaient les babines. Quand de leur côté elles m'aperçurent, ensemble elles partirent à nouveau d'un rire sinistre et s'enfuirent. Rentrée dans ma chambre, je me jetai à genoux. Ma fin était-elle donc si proche? Demain, demain, ô Seigneur, secourez-moi et secourez tous les miens. Juin, au matin. Peut-être sont-ce les dernières lignes que j'écris dans ce journal. Dès mon réveil, un peu avant l'aube, je me suis agenouillée, car si mon heure est venue, je veux que la mort me trouve prêt. Bientôt, je sentis dans l'air ce subtil changement dont j'ai déjà parlé. Puis le matin fut là, avec le premier chant du coq, j'ai senti que j'étais sauvée. C'est d'un cœur léger que j'ai ouvert ma porte et que je suis descendue. Je remarquai tout de suite que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, donc que je pourrais fuir. Les mains toutes tremblantes d'impatience, je détachai les chaînes et ouvris les verrous. Mais la porte refusait de s'ébranler. Mon découragement, mon désespoir furent extrêmes. Cependant, je tirai sur la porte, espérant que, toute massive qu'elle fût, elle céderait, mais en vain. Je compris qu'elle avait été fermée à clé après que j'eus quitté le comte. Alors je me dis que, à tout prix, il me fallait trouver cette clé et que pour me la procurer, j'allais de nouveau ramper le long du mur et entrer dans la chambre du comte. Sans doute me tuerait-il s'il me voyait chez lui, mais de tous les maux qui pourraient m'arriver, la mort me semblait le moindre. Sans perdre un moment, je remontai jusqu'à la fenêtre qui me permettait de sortir de la maison et de descendre jusqu'à celle du comte. La chambre du comte était vide. Je ne trouvais de clé nulle part, mais le tas de pièces d'or était toujours là. Par l'escalier et le couloir obscur que j'avais déjà pris la première fois, je retournais à la chapelle. Je ne savais que trop, maintenant, où trouver le monstre que je cherchais. La grande caisse se trouvait encore à la même place, contre le mur. Mais cette fois, le couvercle était mis, non pas attaché. Seulement, les clous étaient disposés en sorte qu'il suffisait de donner les nécessaires coups de marteau. Il me fallait, je le savais, fouiller le corps pour trouver la clé. Je soulevai donc le couvercle, l'appuyai contre le mur. Et ce que je vis alors m'emplit d'horreur. Oui, le comte gisait là, mais il paraissait à moitié rajeuni, car ses cheveux blancs, sa moustache blanche étaient maintenant d'un gris de fer. Les joues étaient plus pleines, et une certaine rougeur apparaissait sous la pâleur de la peau. Quant aux lèvres, elles étaient plus vermeilles que jamais, car des gouttes de sang frais sortaient des coins de la bouche, coulaient sur le menton et sur le cou. Les yeux enfoncés et brillants disparaissaient dans le visage boursouflé. On eût dit que cette horrible créature était tout simplement gorgée de sang. Je frémis quand je dus me pencher pour toucher ce corps. Tout en moi répugnait à ce contact. Mais je devais trouver ce que je cherchais, ou j'étais perdu. La nuit prochaine pouvait voir mon propre corps offert en festin à l'effroyable trio. Je cherchais dans toutes les poches, entre les vêtements, mais de clé nulle part. M'interrompant, je regardais le comte encore plus attentivement. Sur ses traits gonflés errait comme un sourire moqueur qui me rendait fou. Et c'était cet être-là que j'avais aidé à s'installer près de Londres, où peut-être, dorénavant, pendant des siècles, il allait satisfaire sa soif de sang et créer un cercle nouveau, un cercle de plus en plus élargi de créatures à demi démoniaques qui se gorgeraient du sang des faibles. Pensée qui, en m'affolant, devenait pour moi littéralement insupportable. Il me fallait débarrasser le monde d'un tel monstre. Je n'avais pas d'armes sous la main, mais je saisis une pelle dont les ouvriers s'étaient servis pour remplir les caisses. Et, la soulevant bien haut, je frappai avec le tranchant l'odieux visage. Mais à l'instant même, la tête tourna légèrement, les yeux, brillants de tout leur éclat venimeux, rencontrèrent les miens. Je demeurai comme paralysé. La pelle tournoya dans mes mains et ne fit qu'effleurer le visage, mais entailla profondément le front. Puis la pelle m'échappa, tomba sur la caisse et, comme je voulais la retirer, elle accrocha le couvercle qui retomba, me cachant l'affreux spectacle. Le dernier détail que j'en vis fut le visage boursouflé, couvert de sang, marqué de ce sourire méchant qui venait, eût-on dit, des profondeurs de l'enfer. Je réfléchissais à ce que j'allais faire, mais j'étais incapable de penser, et j'attendis de plus en plus découragé. Je restais là, quand soudain j'entendis au loin un chant que chantaient plusieurs tziganes, et ce chant se rapprochait, et avec lui des bruits de roues et des claquements de fouet. Les tziganes et les Slovaques dont le comte m'avait parlé arrivaient. Après avoir jeté un dernier regard autour de moi, puis à la caisse qui contenait le corps odieux, je regagnai en courant la chambre du comte, bien décidé à m'enfuir au moment où s'ouvrait la porte d'entrée. J'écoutai attentivement. J'entendis au rez-de-chaussée grincer la clé dans l'énorme serrure et s'ouvrir le lourd battant. Ou bien il devait y avoir d'autres entrées dans le château, ou bien quelqu'un avait la clé d'une des portes. Puis j'entendis croître et décroître le bruit de nombreux pas dans l'un des couloirs. Je me retournai pour courir à nouveau vers le caveau où, qui sait, il y avait peut-être une issue que je n'avais pas vue. Mais, à ce moment, un violent courant d'air referma la porte qui donnait accès à l'escalier en colimaçon, et du coup, toute la poussière s'envola. Quand je me précipitais pour ouvrir cette porte, je la trouvais fermée à clé. J'étais à nouveau prisonnier. Le filet du destin se resserrait de plus en plus autour de moi. Tandis que j'écris, j'entends dans le couloir, en bas, que l'on marche lourdement et qu'on laisse tomber... Oui, ce sont sans doute les caisses remplies de terre. Puis, un bruit de marteau. On cloue le couvercle de la fameuse caisse. Maintenant, j'entends les pas dans le corridor, suivis d'autres pas qui me semblent plus légers. On referme la porte, on remet les chaînes, on tourne la clé dans la serrure, on la retire de la serrure, Puis on ouvre et on referme une autre porte. J'entends tourner la clé et pousser le verrou. Écoutez, dans la cour et au-delà, dans le sentier rocailleux, passent et s'éloignent les charrettes. Je les entends qui roulent et j'entends les fouets qui claquent. Et le chant des tziganes s'éteint et meurt peu à peu à mes oreilles. Je suis seule dans le château, seule avec ces trois femmes. Des femmes. Mina est une femme. Et entre Mina et elle, il n'y a rien de commun. Elles, ce sont des démons. Mais je ne resterai pas seule avec elles. Je tenterai de ramper le long du mur, plus loin que je ne l'ai jamais fait encore. Et j'emporterai des pièces d'or. Je pourrai en avoir besoin plus tard. Il faut absolument que je quitte le château. Alors je repartirai vers les miens. Le premier train et le plus rapide m'emportera loin de ce lieu maudit, loin de cette terre maudite où le diable et ses créatures vivent comme s'ils étaient de ce monde. Heureusement, la miséricorde de Dieu est préférable à la mort sous la dent de ces monstres, et le précipice est haut, escarpé. Au bas, un homme peut s'endormir, comme un homme. Adieu vous tous, Mina. Chapitre 5. Lettre de Mademoiselle Mina Murray à Mademoiselle Lucie Westenra. 9 mai. Ma très chère Lucie, pardonne mon long silence, mais c'est bien simple. J'ai été littéralement accablée de travail. La vie d'une institutrice n'est pas toujours commode. J'ai hâte d'être avec toi, au bord de la mer, pour bavarder sans fin et bâtir nos châteaux en Espagne. Oui, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci parce que je veux pouvoir collaborer avec Jonathan. J'étudie assidûment la sténographie. De cette façon, quand nous serons mariés, je pourrai l'aider, prendre en sténo toutes ses notes et les dactylographier ensuite, car j'apprends également à écrire à la machine. J'y passe des heures entières. D'ailleurs, il nous arrive parfois, à tous deux, de sténographier nos lettres. Et je sais qu'en voyage, il tient un journal sténographié, lui aussi. Quand je serai chez toi, je ferai de même. Je commencerai un journal, y écrirai chaque fois que j'en aurai envie, et j'y mettrai tout ce qui me passera par la tête. Je ne pense pas qu'il intéressera beaucoup les autres. Ce n'est du reste pas à leur intention que je le tiendrai. Peut-être le montrerai-je un jour à Jonathan, si un passage ou l'autre en vaut la peine. Mais ce sera pour moi avant tout comme un cahier d'exercice. Je voudrais faire ce que font les femmes journalistes. Prendre des interviews, décrire ce que j'ai vu, essayer de me rappeler les conversations entendues et les rapporter fidèlement. On m'a dit qu'avec un peu de pratique, on se souvient aisément de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a entendu au cours d'une journée. Enfin, nous verrons. Je me réjouis de te parler de mes petits projets. Je viens justement de recevoir un mot de Jonathan qui est toujours en Transylvanie. Il va bien et il sera ici dans une semaine environ. Je voudrais déjà l'entendre me raconter tout son voyage. Cela doit être merveilleux de voir tant de pays. Je me demande si un jour nous voyagerons ensemble. Je veux dire, Jonathan et moi. 10 heures sonnent. Au revoir. Affectueusement à toi, Mina. Postscriptum. Quand tu m'écriras, dis-moi tout. Cela ne t'est plus arrivé depuis longtemps. Je crois avoir entendu parler d'un beau grand jeune homme aux cheveux bouclés. Lettre de Lucy Westenra à Mina Murray. Mercredi 17, Chatham Street. Ma très chère Mina, avoue que ton reproche n'est pas fondé. Je t'ai écrit 2 fois depuis que nous nous sommes quittés et ta dernière lettre était seulement la 2e que tu m'envoyais. En outre, je n'ai rien de nouveau à te dire, rien, vraiment, qui puisse t'intéresser. Nous sortons beaucoup, soit pour aller visiter des expositions de tableaux, soit pour faire dans le parc des promenades à pied ou à cheval. En ce qui concerne le grand jeune homme aux cheveux bouclés, je suppose que tu fais allusion à celui qui m'accompagnait au dernier concert. Des bruits ont évidemment couru. C'était M. Holmwood. Il vient souvent visiter chez nous, et maman et lui s'entendent très bien. Ils s'intéressent aux mêmes choses. J'y pense. Nous avons récemment rencontré quelqu'un qui serait, comme on dit, fait pour toi, si tu n'étais pas déjà fiancée à Jonathan. C'est un excellent parti. Un jeune homme beau, élégant, riche et de très bonne naissance. Il est médecin et très intelligent. Figure-toi qu'il n'a que 29 ans et qu'il dirige un hospice d'aliénés très important. Monsieur Holmwood me l'a présenté et lui aussi maintenant a pris l'habitude de nous faire visite. Je crois que c'est l'homme le plus ferme, le plus résolu que je connaisse, mais en même temps le plus calme. Il semble être d'un caractère imperturbable. J'imagine le pouvoir étonnant qu'il doit exercer sur ces malades. Il vous regarde toujours dans les yeux, comme s'il voulait lire vos pensées. Il agit souvent de la sorte à mon égard, mais je me flatte de pouvoir dire qu'il n'a pas encore atteint son but. Il me suffit de me regarder dans mon miroir. As-tu jamais essayé de lire sur ton propre visage? Moi, je l'ai fait, et je t'assure que ce n'est pas perdre son temps, mais c'est bien plus difficile qu'on ne le croit avant d'avoir essayé. Ce médecin prétend que je suis pour lui un cas psychologique assez curieux, et en toute humilité, je pense qu'il a raison. Mais la psychologie, tu le sais, je ne m'intéresse pas assez à la mode pour pouvoir écrire ce qui se porte. La mode est une scie. C'est là une façon de parler. De l'argot, peu importe, comme dit Arthur. Voilà toutes les nouvelles. Mina, depuis l'enfance, nous nous sommes toujours dit l'une à l'autre tous nos secrets. Nous avons dormi ensemble, pris nos repas ensemble, ri et pleuré ensemble. Et maintenant que j'ai bavardé avec toi, je voudrais bavarder encore. Oh Mina, n'as-tu pas deviné ? Je l'aime. Je rougis en écrivant ces mots, car si j'ai des raisons de croire que lui-même aussi, il ne me l'a pas encore dit. Mina, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Voilà. Écrire ce mot me fait du bien. Que ne suis-je avec toi, ma chérie ? Assise près du feu, en déshabillé, comme nous en avions l'habitude. Nous parlerions, et j'essaierai de t'expliquer tout ce que j'éprouve. Je ne sais pas comment j'ose faire de telles confidences, même à toi. J'ai peur de m'arrêter d'écrire, car alors je déchirerai peut-être cette lettre et, d'autre part, je ne veux pas m'arrêter d'écrire, car je désire tant tout te raconter. Réponds-moi immédiatement. Dis-moi franchement tout ce que tu penses. Mina, il faut bien que je m'arrête. Bonsoir. Prie pour moi, Mina, et prie pour mon bonheur. Lucie. Postscriptum. Inutile de te dire, n'est-ce pas, que ceci est un secret. Bonsoir encore.